Voilà, donc dans l'homélie, je pense que la majorité d'entre vous étaient à la messe. J'ai pas commenté la seconde lecture parce que justement elle est en plein cœur du sujet. Mais vous l'avez très bien préparé cette seconde lecture, donc vous voyez tout de suite à quoi je fais allusion. Il y a une expression assez bizarre dans ce passage de l'épître de saint Paul aux Éphésiens. Vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile du salut. Et là, elle m'a demandé de parler du salut, alors ça tombe bien. C'est assez curieux cette expression « évangile du salut ». Vous voyez, on est familier depuis quelque temps, parce que Jean-Paul II a parlé de l'évangile du travail, l'évangile de la vie, l'évangile de la famille. Dans sa dernière encyclique, le pape François parle de l'évangile de la création. Qu'est-ce que ça veut dire au juste ? D'habitude, on dit l'évangile de Saint-Luc, l'évangile de Saint-Marc. Qu'est-ce que c'est cette expression ? Est-ce que vous y faites attention ? En fait, on ne devrait jamais dire l'évangile de Saint-Marc, évidemment. L'évangile selon Saint-Marc, l'évangile de Jésus-Christ. Le véritable titre, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est-à-dire la grande nouvelle que Dieu nous donne, c'est Jésus-Christ qui dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie », par exemple. Jésus-Christ qui dit « Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ». Je dis ça parce que c'est le thème qu'on m'a proposé. Et donc, il y a l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, etc. Et tout d'un coup, on voit apparaître sous la plume de Jean-Paul II des expressions, c'est assez récent, hein, comme l'évangile de la vie, une encyclique en 95, l'évangile du travail, expression qu'il utilise dans une de ses premières encycliques, Laborem Exercens, l'évangile de la famille. Et dans cette encyclique sur l'écologie, la Laudato Si, le chapitre 2, l'évangile de la création. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire le mot évangile ? Tiens, voilà. On l'utilise tout le temps ? On dit, ben, ça veut dire bonne nouvelle, voyons, puisqu'on dit bonne nouvelle. Oui. Attention, attention. Est-ce que vous savez que c'est un mot grec qui a été inventé au moment du Nouveau Testament à partir d'un autre mot grec que vous connaissez très bien, mais qui a été traduit, donc plus personne ne le connaît ? Évangile, c'est un mot grec. Vous enlevez le V et vous mettez un P à la place. Épangile. Alors ça, c'est un mot qui est partout. Chez Platon, dans tous les auteurs grecs et dans le Nouveau Testament. Vous savez ce qu'il veut dire ? Épangile, avec un P, il veut dire la promesse. On voit tout le temps ce mot-là de la promesse. C'est amusant d'ailleurs, parce que même dans l'épître d'aujourd'hui, on nous ça. Alors il faudrait dire l'évangile du salut, votre salut, et après vous recevez l'esprit de l'épangile, l'esprit de la promesse. Mais comme il y a un mot grec qu'on a gardé et les autres qu'on a laissé tomber, personne s'en rend compte. Tout le monde connaît le mot promesse, tout le monde croit connaître le mot évangile, personne ne fait le rapprochement entre les deux. Ça, c'est embêtant quand même. Il y en a même un troisième où on enlève les deux premières lettres et on met A-N à la place. Anne-Angile. Là, celui-là, il a été, il est plus facile à comprendre, c'est l'annonce, justement. Vous allez tous être mes messagers. Moi, j'aimerais que quelqu'un soit assez astucieux pour nous montrer dans une traduction courante que ces trois mots sont très proches et qu'ils ont été fabriqués l'un sur l'autre parce que, voilà la définition la plus profonde de l'évangile. La bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est que justement ce que vous désirez dans le fond de votre cœur, la promesse que Dieu a mise en secret dans le cœur de tous les hommes, eh bien Jésus, c'est lui qui l'accomplit. Il est l'accomplissement de la promesse. Et donc il est capital d'entendre ces deux mots ensemble, et qu'à chaque fois, comme dans l'écriture d'aujourd'hui, juste aujourd'hui, mais je suis persuadé que tout le monde qui le lit ne voit pas le choc si utile de ces mots, vous voyez. Et donc, quand je prêche l'évangile à quelqu'un, et que je vais lui dire, ben justement le kérigme, c'est-à-dire convertissez-vous, Jésus est le sauveur, etc. En fait, je fais cet acte de foi que c'est inscrit dans le fond de son cœur, que c'est ce qu'il attend, que c'est la promesse qu'il désire, qu'elle lui a été faite par Dieu dans le fond de son cœur et qu'il attend que ça. Même s'il me refuse, c'est très possible souvent que les gens opposent une barrière de refus, parce qu'à l'intérieur d'eux, ce serait un changement trop violent. Ils savent que c'est vrai, ils refusent de reconnaître que c'est vrai. On appelle ça le combat spirituel. Nous, nous disons, parce que nous sommes sûrs que Jésus est l'objet de la promesse, la réalisation de la promesse, et donc nous devons dire l'évangile qui répond à cette attente la plus profonde. Parfois, toutes les portes s'ouvrent, on est ébloui, extraordinairement reconnaissant. Et puis d'autres fois, on tombe sur des refus, c'est dur pour nous. On nous attaque, on nous critique, on nous envoie promener, on nous ringardise, je ne sais pas quoi. Bah, c'est arrivé depuis toujours. Vous savez, quand saint Paul arrive à Athènes, il prend des chemins très détournés pour essayer de leur parler. Et dès qu'il commence à parler de la résurrection, il dit...